Et vous écoutez France Culture. Le cosmos réel de l'énergie dans tous ses états, y compris ce que nous connaissons sous le terme de matière, possède un contour et une nature absolument impossible à appréhender par le cerveau humain. Plus nous en apprenons sur lui, plus nous prenons conscience de cet état de fait. Howard Philip Lovecraft, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre au salon Livre Paris 2017 en ce samedi. Mauvais genre qui se consacrera quasi exclusivement à l'actualité vibrillonnante et polymorphe de Howard Philip Lovecraft. Nouvelle traduction, numéro spécial de revue, collectif critique, artbook, l'immonde grouillement et l'infâme fermentation lovecraftienne adoptent encore et toujours les formes les plus monstrueusement variées. Bilan d'enquête ce soir dans l'atroce émission que nous ferons en compagnie du mythique Patrick Marcel dont Les Moutons électriques réédite l'étude maudite sur le Cthulhu, insoutenable chronique vidéo en seconde partie, avec Fausto Fasulo et Philippe Prouillet, les nécromans immondes, qui nous parleront des sorties Blu-ray et DVD de La Nuit des Vers Géants, de Soudain les Monstres et des Nuits du Cauchemar. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, l'insondable émission. J'ai presque envie de dire aujourd'hui qu'on est sur France Cthulhu, ce qui serait tout à fait adapté à notre situation, puisqu'effectivement, c'est Lovecraft qui nous rassemble aujourd'hui. Lovecraft, d'ailleurs, dont on a assez peu parlé dans Mauvais Genre depuis toutes ces années. On a beaucoup à se faire pardonner. Et l'occasion était trop belle, donc pour ce mois Lovecraft, qui est donc lancé par les Indés de l'Imaginaire, un groupement d'éditeurs, alors notamment Les Moutons électriques, avec Patrick Marcel, que je vous demande d'applaudir. On applaudit l'immonde Patrick Bonjour. Marcel, le mythique Patrick Marcel.
Le cyclopéen Patrick Marcel.
Donc, dont on réédite au Mouton électrique Cthulhu, point d'exclamation. Donc, une étude, alors on va dire de quel type d'étude, sur cette figure centrale du panthéon de la tératologie lovecraftienne. Également avec moi, Jean-Luc Rivera. Quel adjectif on peut utiliser pour Jean-Luc Rivera? L'insondable.
Blasphématoire.
Le blasphématoire, Jean-Luc Rivera.
Bonsoir.
Bonsoir, Jean-Luc. Et puis, Fausto Fasulo est avec nous. On l'applaudit également. Rédacteur en chef de Mad Movies et de la revue Atom, dévolue au manga, Fausto Fasulo, donc avec qui on va faire l'actualité du DVD assez lovecraftien de ton, d'ailleurs, peut-être pas de sujet directement, mais de
ton. Oui, complètement, et je salue encore une fois la grande cohérence de cette émission-là, puisque l'un des réalisateurs que nous allons aborder plus tard, à savoir Jeff Lieberman, réalisateur de La Nuit des Vers Géants, revendique son film d'influence lovecraftienne.
Merci Fausto, mais avant cela, eh bien, nous allons commencer, hélas, cette émission par deux nécrologies de fort pénibles à faire, mais hélas, inévitable. Et c'est pour ça que l'on fait jouer l'hymne de l'émission. Voilà le thème du film Saludo Sombre de Sergio Solima pour saluer Cazoar et Gamblon comme il le mérite. La mémoire de l'acteur cubain, italien, Thomas Milian, qui vient de nous quitter. Thomas Milian, l'inoubliable Cuchillo, donc de Saludo Sombre. Fausto Fasulo, qu'est-ce qu'on peut dire de Thomas Milian, comme ça, quand on laisse parler son cœur?
Que c'était probablement l'un des plus grands. Alors c'est compliqué parce qu'effectivement, il était d'origine cubaine, mais aussi américain. Et il a fait la plus grande partie de sa carrière en Italie. Il a littéralement tourné avec tout le monde. Il a tourné avec Mauro Bolognini, il a tourné avec Michelangelo Antonioni, il a tourné avec Umberto Lenzi. Enfin, c'est assez intéressant, c'est de voir le grand écart artistique qu'il faisait entre des auteurs, on va dire, plus respectables et d'autres un petit peu plus bis. Et puis c'est quelqu'un qu'on associe forcément à des grands personnages du cinéma populaire italien, notamment le flic Nico Giraldi, ou encore le personnage du bossu, enfin voilà, plein de figures assez hautes en couleur qu'on a pu croiser dans le cinéma populaire italien des années 70.
On reviendra avec Philippe Rouillet qui est en route pour l'effroyable émission sur la personnalité de Thomas Milian. Et alors je me tourne vers vous Patrick Marcel parce que l'autre grand départ de cette semaine c'est celui de Bernie Wrightson, dessinateur. Et là on est au cœur même, je dirais, de l'imaginaire lovecraftien d'une certaine façon.
Surtout l'horreur en général. Mais effectivement aussi Lovecraft, c'est un de ces jeunes dessinateurs qui a explosé dans les comics. À la fin des années 60-70, il s'est regroupé d'ailleurs, il y a une organisation qui s'appelait le Studio, il y avait Michael Kaluta, il y avait Jeff Jones, et il y avait Barry Smith, qui n'était pas encore Barry Windsor Smith, et il y avait Bernie Wrightson, qui a commencé, je sais plus exactement précisément, mais enfin, il a commencé surtout à impressionner les gens dans DC en faisant diverses petites histoires. Il a repris une histoire de super-héros de fantasy appelée Nightmaster, enfin des choses... Et puis surtout, un jour, il a créé Swamp Thing, la chose des marais, qui est vraiment une série qui a quasiment été conçue pour lui. C'est-à-dire que Len Wein lui écrivait sur mesure des scénarios qui mettaient en jeu quasiment toute l'écurie des monstres à la Universal. Et Wrightson, il a vraiment éclaté. Il avait un style qui était très influencé par Frazetta, mais pas seulement. À travers Frazetta, c'était aussi les grands illustrateurs à l'encre de Chine et à la plume du début du siècle. Joseph Clement Cole, par exemple. Et dans Swamp Thing, c'était magnifique. Je me souviens du premier Wrightson que j'ai acheté, c'était Swamp Thing numéro 3. Et il y a une image qui m'a hypnotisé, c'était Swamp Thing qui essayait d'attraper une cornue et qui la faisait éclater parce qu'il est trop fort, il ne mesure pas sa force. Et les éclats de verre, enfin la manière dont c'était rendu, c'est extraordinaire. Il a fait une dizaine de numéros de Swamp Thing, et puis il est parti ensuite chez Warren, où il a encore atteint un nouveau palier en faisant des illustrations, plusieurs histoires de peau, une histoire de Lovecraft, qui était air froid, mm-hmm. qui était aussi assez fabuleuse, parce que c'est une nouvelle très difficile à illustrer, parce qu'il ne se passe rien. Je lui ai dit, il a dit, etc. Et il arrivait, avec ses cadrages, avec ses ombres, etc., à faire quelque chose de vraiment prenant. Et en plus, c'est Kelly Jones, qui est un de ses disciples, qui en parlait. La dernière case, la révélation, qu'on met souvent sur une petite case, sur la dernière page, là, c'était une pleine page. On voit le narrateur au premier plan et au fond le sofa avec les restes déliquescents du docteur. Et puis ensuite, évidemment, il y a surtout eu ce qui est sans doute son sommet, c'est-à-dire l'illustration du Frankenstein de Mary Shelley, voilà. Avec des illustrations, alors en plein dans ce style dont je parlais, justement, des illustrateurs au début du siècle, à la hachure, c'est assez proche de la gravure d'ailleurs, avec des cadrages extraordinaires.
Et des pleines pages.
Oui, et puis de très forts emplois de l'espace négatif, avec des blancs qui mettaient bien en valeur l'action qui a déséquilibré. Des décors absolument fous, on voyait le cabinet du docteur Frankenstein avec des cornues partout, c'était encombré, il a passé un temps fou là-dessus.
Où peut-on lire Bernie Wrightson en édition française, Patrick Marcel?
Je ne sais plus le nom. Il y a eu un recueil de ces histoires de chez Warren, chez Eerie et Creepy, c'est quoi le...
Delirium.
Voilà.
Très bien, Delirium, qui est une maison qu'on ne saurait trop recommander. Ah, mauvais genre, merci messieurs pour ces évocations donc de Thomas Milian et de Bernie Wrightson, deux icônes du mauvais genre qui viennent de nous quitter. Alors Lovecraft est surtout connu pour ses livres maudits et ses manuscrits interdits. Entrez, Philippe Rouillet, asseyez-vous à la table. Les manuscrits pnacotiques, le Necronomicon, eh bien nous aussi, à mauvais genre, nous avons notre livre maudit. C'est l'encyclopédie pratique des mauvais genres que nous ouvrons solennellement tous les samedis. Et la grande prêtresse est là pour célébrer le culte infâme, Céline Duchesnec. Quelle est la lettre de ce soir, Céline?
Est-ce que c'est une lettre maudite? La lettre E.
Épouvante.
Emmanuel, Camille Emmanuel, qui est auteur de Lettres à celle qui lit mes romans érotiques et qui devrait arrêter tout de suite.
Alors, dans toutes ces romances, on a le même schéma, notamment sur la figure de la femme et de l'homme. La femme est plus jeune que l'homme, elle a 10 ans d'écart. Elle est étudiante ou stagiaire. L'homme, lui, est milliardaire, c'est un self-made man. Alors, il peut être rockstar, un grand sportif ou un chef d'entreprise, peu importe, le costume peut changer, mais en tout cas c'est toujours un homme dominant, blanc, qui va permettre à la jeune fille de s'accomplir. C'est-à-dire que sans avoir rencontré cet homme riche-là, cette jeune fille-là, elle n'aurait pas découvert son destin, elle n'aurait pas découvert le plaisir. C'est grâce à l'homme blanc et riche qu'elle va s'épanouir. Et ce message-là, il est répété à l'envi sur des milliers et des milliers de pages. Et il est présent dans toutes les librairies aujourd'hui de France. Et pour moi, c'est un formatage, en fait, de l'image du couple, de la sexualité, et des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Mais le discours sur le couple, sur le fantasme, sur le désir, pour moi, c'est un discours des années 50.
Camille Emmanuel s'est intéressée au phénomène de la romance érotique, genre qui a explosé en 2011 avec évidemment le succès commercial de 50 nuances degrés, qui a rapporté tout de même 14 millions de dollars à son auteur. Une vraie manne financière, et autant vous dire que depuis, un nombre conséquent d'éditeurs se sont penchés sur l'affaire, tous voulant avoir leur sexe célèbre, leur littérature mummy porn. Et en matière de romances érotiques, Camille Emmanuel sait de quoi elle parle, car elle en a écrit 12 en un an, ce qui au départ était un gagne-pain, une forme de curiosité. Elle était assez contente de découvrir les codes de cette littérature de genre, s'est transformée en véritable cauchemar. Formatage inouï du scénario, des relations humaines et de la vision de la société. Et c'est ce qu'elle raconte donc dans Lettres à celle qui lit mes romans érotiques et qui devrait arrêter tout de suite. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui ces livres sont essentiellement lus par des jeunes femmes de 16 à 25 ans, que les éditeurs les présentent comme des manuels d'émancipation et d'éducation sexuelle, ce n'est pas sans conséquences, surtout pour les scènes de sexe. Camille Emmanuel.
Il faut que le cadre de ces scènes de sexe soit absolument glamour. On me répétait souvent « pas assez glamour, pas assez glamour, pas assez glamour ». Glamour, ça veut dire quoi ? Ça veut dire du luxe. Ce qui, moi, me posait problème, parce que je pense qu'on peut avoir des scènes de sexe merveilleuses dans un hôtel miteux, ou dans un studio à Paris, enfin, peu importe. C'est aussi une sexualité forcément hétérosexuelle, pas mal de missionnaires, pas de levrettes. Et c'était toujours aussi le schéma, on s'embrasse, préliminaire, pénétration, jouissance, pas de fantaisie. Et moi, je considère que ce scénario-là sexuel, il n'est pas forcément obligatoire. On peut faire juste du sexe oral ou à un moment donné, être prise contre la machine à laver. Mais là, non, c'était pas possible. Le milliardaire, il ne fait pas l'amour avec l'héroïne sur... contre une machine à lever, c'est pas assez glamour. Donc voilà, c'est des exigences comme ça. La jeune fille n'a pas le droit de se masturber, parce que le plaisir doit venir de l'homme. L'homme, il bande tout le temps, pas de problème du tout d'érection, il a une verge surgissante. Mais voilà, et c'est des corps aussi très lisses, pas de poils, pas de sueur, pas de sperme, pas de cyprine. Donc c'est une sexualité aseptisée. Et il se trouve que quand j'étais plus jeune, même encore maintenant, mais à 20 ans, moi j'ai commencé à lire la littérature érotique et pornographique. Et je lisais l'inverse de tout ça. Je lisais des histoires de personnages féminins qui devenaient ultra salopes et qui se révélaient à leur sexualité, qui étaient dominatrices ou complètement soumises. Là, je pense à Histoire d'eau, par exemple. Mais une soumission sublimée par l'écriture, et voilà. Des passions sexuelles et amoureuses folles. Je lisais des histoires de femmes tatouées, de femmes... Enfin, peu importe, mais il y avait une diversité. Et ce que m'a appris cette littérature érotique et pornographique, c'est qu'il n'y avait pas une façon d'être femme, il n'y avait pas une façon de jouir, qu'il n'y avait pas un seul modèle. Or, dans les romances érotiques, donc le mummy porn, c'est l'inverse. On explique aux jeunes filles qu'une femme bien, c'est une femme qui rougit quand l'homme la déshabille. Qu'un homme désirable, c'est un homme qui offre des cadeaux de luxe et qui est parfait et qui a des tablettes de chocolat. Bon, bah, pas forcément non plus. Et c'est la reproduction en fait de ces stéréotypes de genre et ces stéréotypes d'image du corps qui est problématique. On a le droit de fantasmer sur un milliardaire bien gaulé. Mais le vrai problème que moi je soulève dans mon ouvrage, c'est le côté absolument répétitif du schéma amoureux.
Pour en savoir plus sur les secrets de fabrication de la romance érotique, je ne saurais que trop vous conseiller le livre de Camille Emmanuel. Il s'intitule donc « Lettres à celle qui lit mes romances érotiques et qui devrait arrêter tout de suite ». C'est à découvrir aux éditions Les Échappées. Je signale aussi au passage un autre livre de Camille Emmanuel qui vient tout juste de sortir chez La Musardine, dont je vous reparlerai dans quelques semaines. Il s'agit de « Sans tabou », un essai entièrement consacré au sang des règles.
Camille Emmanuel, merci Céline pour cette entrée. Camille Emmanuel, de l'effroyable encyclopédie pratique des mauvais noms. Patrick Marcel, l'érotisme lovecraftien. Je parle du canon des textes lovecraftiens, oui. Est assez restreint.
Il est... Je ne sais même pas si on peut en parler. Voilà. Il n'existe pas. Il y a quelques mariages qui se terminent toujours très mal. Non. En parenthèse, si je peux...
Voilà, néanmoins...
Il y a un roman qui vient de paraître aux États-Unis qui s'appelle The Night Ocean par Paul Lafarge. Et ça commence par des extraits de l'Erotonomicon qui serait le carnet où Lovecraft a noté toute sa vie sexuelle, qui n'a pas eu beaucoup de retentissement, forcément, puisqu'il a gardé écarté pour lui. Et c'est assez rigolo, parce que ça choque un peu, parce que, connaissant Lovecraft comme on le connaît, ça fait une image très décalée. Enfin, il court les lieux de drague. Alors, évidemment, il y a des amours homosexuels, parfois même avec de jeunes gens qui sont noirs, ce qui, pour Lovecraft, est un peu choquant.
Ça. Oui.
Et ils rencontrent Robert Barlow, dont on sait lui qui est tout homosexuel, et ils finissent par avoir une liaison, ils font Yoxosos ensemble, ils s'adonnent aux sphères extérieures, il y a tout un codage comme ça qui est assez rigolo. Et au bout de 60 pages, on apprend que c'est un faux littéraire, que ça...
Non
si. Mais j'ai pas encore fini le bouquin, donc je peux pas aller très loin, mais on a l'impression que c'est un univers parallèle, parce que Lovecraft devient très célèbre parce qu'il est repéré par la commission des activités non américaines à cause de ce carnet, et qu'il est plongé dans l'oubli par opprobre.
Merci Patrick Marcel. Effectivement, il est donc urgent que Mauvais Genre consacre avec pareille actualité une émission à Lovecraft.
Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà, vous écoutez bien France Cthulhu, l'insondable radio consacrée aujourd'hui, en ce qui concerne Mauvais Genre, à Lovecraft. On écoute Cylindrical Traces, un choix de Laurent Polleret, choix de Laurent Polleret pour cette playlist lovecraftienne de ce soir. Alors effectivement, une émission, entraînée par une actualité tout à fait étonnante, parce que c'est le mois lovecraftien chez les Indés de l'Imaginaire. Je le rappelle, il y a le Cthulhu de Patrick Marcel qui ressort enrichi aux éditions Mouton Électrique. Il y a un collectif critique au cœur du cauchemar Lovecraft, dont chez ActuSF, avec tous les aspects sont envisagés. Aux éditions Mnemos, la clé d'argent des contrées du rêve d'après H.P. Lovecraft, un recueil de nouvelles originales. Et puis on a ressorti donc de Roland Wagner, HPL, dans la collection Helios. Alors effectivement, Jean-Luc Rivera, là c'est quand même un mois particulier. L'activité lovecraftienne, on peut le dire, elle a redémarré il y a quelques années avec les traductions de François Bon, de David Camus, mais il se passe toujours quelque chose autour de Lovecraft en France. Il y a même un numéro spécial de la revue Bifrost, donc ça fait partie, je dirais, c'est un lieu de mémoire de la littérature de genre française.
Oui, la France a toujours occupé une place particulière pour Lovecraft. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que si Lovecraft est redevenu célèbre aux États-Unis, c'est comme Poe avant, en passant par la France, puisque Jacques Bergier, que je crois nous aimons beaucoup dans cette
Tout
émission,
à fait.
C'est grâce à Jacques Bergier, après la Deuxième Guerre mondiale, que Lovecraft a fait surface en France. Il a été traduit chez De Noël dans les traductions que l'on critique beaucoup, mais qui nous ont
Jacques
tous Papy, fait rêver, celle de Jacques
Papy. François Truchot.
Et puis ensuite, c'est reparti aux États-Unis. Et aux États-Unis, il y a eu une activité lovecraftienne avec les gens comme Derleth, etc. Et plus tard, des gens comme Stephen Jones et les pastiches autour de l'univers lovecraftien. Et c'est revenu en France, où il y a un certain nombre de passionnés de Lovecraft, de la revue Weird Tales, qui continue de faire vivre depuis des années. Effectivement, on peut citer David Camus, qui a fait beaucoup pour retraduire Lovecraft, et puis plus récemment, François Bon.
Patrick Marcel, on peut citer des gens comme Patrice Louinet, qui ont fait progresser depuis la France la connaissance de Robert Howard, ami et, je dirais, une sorte de compatriote d'une certaine façon dans l'imaginaire de Lovecraft. Et aux États-Unis, il y a eu cette figure étonnante de S.T. Joshi, qui a conçu alors une biographie hallucinante d'érudition de Lovecraft et qui a réédité tous les textes. Donc tout commence toujours par une relecture des manuscrits, une remise à plat des textes, un travail d'enquête et d'érudition. On commence d'abord par retourner à l'auteur qui a été un peu perdu dans les brumes, je dirais, des écrits de ses disciples.
C'est-à-dire qu'au départ, c'est Derleth qui a créé Arkham House justement pour publier, pour faire une chose que Lovecraft n'avait jamais connue de son vivant. C'est une édition reliée de ses contes, de ses nouvelles. Ça a entretenu, mais effectivement, Arkham House était une maison spécialisée et à petit tirage. Et ce qui a marqué un tournant, justement, c'est l'arrivée de S.T. Joshi dans les années 80. Parce qu'il s'est penché de manière universitaire sur les textes et on a ressorti une version qui, à l'époque, était considérée comme définitive des textes, à partir des manuscrits, etc. Bon, depuis, il y en a eu d'autres. Il y en a eu une récemment qui est sortie, un variorum de l'édition chez Hippocampus Press, avec toutes les variantes suivant les manuscrits, suivant les différents états. Mais Joshi s'est beaucoup intéressé à Lovecraft parce que, en tant qu'universitaire, il voulait déjà racheter la mauvaise réputation de Lovecraft, qui a beaucoup souffert de diverses critiques littéraires qui trouvaient qu'il écrivait mal, qu'il n'avait pas d'intérêt, que la seule épouvante chez Lovecraft, c'est son style, a-t-on dit. Et en fait, Joshi est raisonnablement plus objectif et montre surtout que ce qui est intéressant, c'est l'idéologie de Lovecraft, ce côté rationaliste à tout craint. C'est une horreur, et je pense qu'effectivement, c'est une des grandes caractéristiques de Lovecraft. Il fait sortir le fantastique du ghetto purement surnaturel et superstitieux. D'ailleurs, il le fait à deux titres. D'abord, en utilisant des monstres qui se révèlent être des créatures qui échappent à notre entendement parce qu'elles ne sont pas de notre univers, de notre secteur de l'univers, en fait. Et aussi en évoluant petit à petit d'histoires qui peuvent se classer dans l'horreur classique pour arriver à des histoires qui sont plus proches de la science-fiction au niveau du traitement. Donc c'est assez intéressant pour ça et c'est ce qui a entretenu. En plus, il y a eu quelque chose aussi qui a été très important, c'est le jeu de rôle. Parce que le jeu de rôle s'est emparé de Lovecraft, l'appel de Cthulhu, et apparemment ça a généré des tas de fans qui ont aussi... Et puis... Il y a le jeu du mythe de Cthulhu qui est un petit peu abusif de Derleth, qui est une vision un peu manichéenne de l'ensemble, mais qui a quand même lancé ce jeu qu'avait commencé Lovecraft avec des citations, des entremêlements. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont voulu faire ça, ce qui fait qu'il y a toujours eu, en bruit de fond, une série d'anthologies comme ça sur Lovecraft, Lovecraftienne, où à la fin... Les pires, généralement, singent le style de Lovecraft et c'est assez pénible. Mais il y a aussi des très bonnes idées qui savent jouer. Il y a des auteurs comme Fritz Leiber, par exemple, qui a fait une très bonne nouvelle Lovecraftienne. C'est quelque chose qui s'est toujours maintenu. Mais évidemment, avec le basculement de Lovecraft dans le domaine public, là, ça a éclaté.
C'est l'explosion. ce collectif, je le répète, Lovecraft au cœur du cauchemar, paru chez ActuSF, donc publié par une sorte de coopérative d'amateurs et d'adorateurs. Très beau livre, relié, qui contient une bonne dizaine, moi-même une vingtaine d'études copieuses et érudites sur l'auteur. Quand on lit ce livre, Jean-Luc Rivert, on a l'impression que le combat se mène essentiellement sur deux fronts. D'abord, le front de la traduction. Là, il y a des articles qui montrent bien qu'il serait bien de traduire le texte de Lovecraft et non pas de traduire Lovecraft en fonction d'une idée qu'on a de ce que doit être un texte littéraire, c'est-à-dire en l'écrémant, les mondants de tous ses adjectifs, de toute sa folie poétique intrinsèque. C'est ce qu'avaient fait pas mal de traducteurs. Ça, c'est un élément. Puis alors, deuxièmement, Patrick Marcel le dit, il faut quand même isoler Lovecraft de ce qu'on appelle le mythe du Cthulhu. C'est-à-dire que Lovecraft a eu, je dirais, des disciples et des amis qui ont cru bien faire, en, d'une certaine façon, en assumant sa postérité, en poursuivant d'une autre façon, la vie de ses héros, la vie de ses créatures. Donc il y a deux choses à faire, le traduire vraiment et puis l'isoler quand même au sein de cette espèce de mythologie buissonnante de littérature qui a suivi sa mort en 1937.
Oui, alors au niveau de la traduction, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup d'études. Il y a en particulier un article qui compare les différentes traductions. On s'aperçoit que lorsqu'on lit Lovecraft en anglais, il n'a pas un vocabulaire facile. Et en français, c'est très difficile à rendre. Et il y a différents partis pris. On a parlé de Papy, c'est lui qui a inventé, par exemple, Papy, oui. le fameux terme des maigres bêtes de la nuit qui a fait rêver tout le monde. C'est vrai que lorsqu'il y a eu un parti pris de retraduire exactement et que c'est devenu les faméliques de la nuit, ça nous faisait un peu moins rêver. Mais c'est très difficile. La traduction de François Bon, par exemple, est très différente des autres parce que lui, il le dit, il a décidé de respecter Lovecraft, mais vraiment au pied de la lettre, quasiment mot à mot. Ça donne quelque chose, un résultat auquel on n'est pas habitué, mais qui se défend tout à fait. Donc il y a cet aspect des traductions, mais il y a aussi l'aspect, et Patrick Marcel commençait à en parler un petit peu, des études que l'on trouve aussi dans ce recueil.
Alors on peut saluer le travail qu'avaient fait en leur temps Joseph Alterac et Michel Meurger.
Voilà, j'allais dire, bon, les grandes études sur Lovecraft, qui effectivement était un rationaliste, et l'horreur chez Lovecraft, elle vient du fait que l'homme est confronté à quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas appréhender. Mais les créatures en elles-mêmes ne sont pas maléfiques. Simplement, elles sont ce qu'elles sont. C'est leur manière d'être. Et elles ne s'aperçoivent pas qu'il y a de la vermine humaine qui est là. Et donc, il y avait eu des grandes études qui avaient été faites sur l'aspect rationaliste. Et tout ce que Lovecraft, qui était un homme très cultivé, introduisait, on le voit bien dans les montagnes hallucinées, dans tous les autres, il est au courant des dernières recherches en matière de sciences, d'astronomie, de mathématiques. Meurger et Alterac avaient déjà fait des études, et là on continue, et ça c'est vraiment un domaine très intéressant. Et j'ajouterai, pour pas être trop long, qu'on s'aperçoit, pour moi, une des grandes découvertes, c'est grâce à Patrick Louinet, dans ce recueil, la traduction d'un certain nombre de lettres inédites, de la correspondance, des extraits choisis de la correspondance entre Lovecraft et Howard. C'est absolument effarant de voir comme tous les deux étaient pointus, les discussions qu'ils ont. Ça, c'est sans doute l'un des passages les plus passionnants de tout le livre.
Lovecraft, sujet de mauvais genre sur France Culture, donc en ce samedi. Lovecraft, très difficile à figurer Fausto Fazulo, le cinéma s'est toujours un peu cassé les dents pour donner une image digne de ce que sont les textes de l'univers de Lovecraft. Et on avait le rêve que Guillermo del Toro fasse Les Montagnes Hallucinées, des plus célèbres nouvelles de Lovecraft.
C'est
évaporé. Enfin, on peut toujours se consoler en lisant par exemple Gotland de Fructus et Thomas Day aux éditions du Bélial. Et puis il y a également le livre Kadat chez Mnemos qui tente de recréer par l'illustration et l'image ce qu'est le monde de Lovecraft. Alors, Cthulhu, donc l'étude qui est rééditée par Patrick Marcel, elle se focalise sur peut-être la figure la plus connue, la plus célèbre de la tératologie, du panthéon monstrueux lovecraftien. Comment s'est constitué ce panthéon ? Parce que, on l'a dit, bon, c'était un homme extrêmement cultivé qui possédait très bien l'histoire, l'archéologie, la linguistique. Lovecraft était athée et c'était un rationaliste pur et dur, mais c'était un homme ouvert, en tant que disciple de Poe, à tout ce qui était vent et tempête du cauchemar et de l'horreur. Comment a-t-il constitué ce panthéon monstrueux qui aujourd'hui s'identifie avec lui, c'est-à-dire Yog-Sothoth, Nyarlathotep et le fameux Cthulhu?
Je pense qu'une des influences... Alors c'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas à quel moment Lovecraft a été influencé par Lord Dunsany. Mais Lord Dunsany, qui est un écrivain irlandais, a notamment fait ses Dieux de Pegania, qui a donné tout un cycle de nouvelles. Et apparemment, Lovecraft était à peu près dans cette mouvance. Et il a vu Lord Dunsany en conférence, et là, il est devenu un Dunsanien convaincu. Il y a toute une branche comme ça, où il y a le début de ce panthéon. Et petit à petit, ce sont des éléments qui, en fait, se sont plus ou moins cristallisés, coagulés. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, on voit à chaque fois une facette. Si on prend les nouvelles, ce qu'on nous dit sur certaines peuplades est parfois contradictoire avec ce qui a été dit dans d'autres nouvelles. Cthulhu ou Yog-Sothoth sont pas traités pareil suivant les contes. Bon, ce qui est très bien pour moi, puisque je fais un bouquin sur la spéculation de ce qu'ils peuvent être.
Ouais, vous brassez la fiction et la réalité, c'est une grande rêverie sur le Cthulhu.
Et donc, c'est un agrégat, ce qui a favorisé justement ce fameux mythe de Cthulhu, puisque d'autres personnes pouvaient en rajouter sans crainte de contradiction, puisque la contradiction était quelque part déjà incluse. Ce sont des êtres qui, peu à peu, se forment au fil des histoires pour arriver justement vers cette espèce de déclinaison science-fictionnaire vers la fin, où quelque part, tous ces monstres sont des super extraterrestres. Ce sont des extradimensionnels. Ils viennent de secteurs de l'univers où les règles de la physique, de l'existence même ne sont pas les mêmes que les nôtres, ce qui les rend totalement impossibles à appréhender à nos sens. L'horreur chez Lovecraft étant, comme on l'a dit, pas tellement que un loup-garou va sortir du placard pour tuer le narrateur, mais que le narrateur se trouve confronté à sa propre inexistence.
La chose ne peut être décrite. Il n'existe aucun langage pour traduire de tels abîmes de démence aiguë et immémoriale, d'aussi atroces contradictions de la matière, de la force et de l'ordre cosmique. Une montagne s'était mise en marche et progressait en trébuchant. Dieu, comment s'étonner que de l'autre côté de la Terre, un grand architecte soit devenu fou et que le pauvre Wilcox ait déliré de fièvre en cet instant télépathique ? La chose des idoles, le verre, le gluant produit des étoiles, s'était réveillée pour venir réclamer ce qui lui appartenait. Les étoiles étaient à nouveau dans la juste position, et ce qu'un culte célébré depuis des âges n'avait pu faire à dessein, un groupe d'innocents marins l'avait fait par accident. Au bout de 20 millions d'années, le grand Cthulhu était à nouveau libre et ivre de joie. Voilà, je ne veux pas dire que vos tentacules ne se sont pas dressés, Patrick Marcel, mais vos poils se sont hérissés à la lecture d'un texte que vous connaître absolument par cœur en français et en anglais. Alors, le Cthulhu, comment peut-on déjà le formaliser, tenter d'en donner, je dirais, même si elle n'est en sans contour, de donner quelques linéaments de ce que formellement il est?
Alors, la description est très floue. C'est humanoïde, avec des éléments qui tiennent du dragon, de la chauve-souris et de la pieuvre. Donc à partir de ça, on a toute une... Alors c'est assez curieux parce que c'est très flou, et en même temps ça s'est concentré en une figure qui est assez facilement reconnaissable. Maintenant il suffit de faire une tête avec des tentacules qui pendent de la mâchoire supérieure, et tout le monde dit Cthulhu. C'est vraiment devenu parmi les figures identifiables de la fiction. Et de cette forme vaguement humanoïde de gelée verte, légèrement floue, on a tout un tas de représentations suivant les dessinateurs. Ça va du culturiste avec les veines vert sombres qui transent sur la peau, à des masses beaucoup plus floues. Parfois le dragon l'emporte, parfois c'est l'humanoïde. Enfin, c'est très Lovecraft lui-même, il y a eu un croquis à l'intérieur du bouquin, avait fait un petit dessin pour représenter comment il voyait Cthulhu. C'était pas un grand dessinateur, donc c'est pas vraiment terrifiant. Mais il y a tout un tas. Je pense qu'on pourrait faire une exposition passionnante à partir de toutes les représentations de Cthulhu qui vont de l'art déco
Tout le problème, effectivement, dans la représentation. Oui. Je me souviens encore, effectivement, le cahier de Lerne, qui a été une étape importante dans la reconnaissance et la connaissance de Lovecraft en France, était sorti. Un dessinateur avait tenté de représenter les visions lovecraftiennes et la déception n'avait pas été mince chez les amateurs. Alors, Lovecraft, les races, les grands anciens, les polypes volants, les champignons comme ça, les espèces de
le peuple mycène.
Le peuple mycène, les déités, Azathoth, Yoxotot, Astur, les villes tapis aux confins de la terre, Rillier, la cité sans nom, Hiram. Il y a toute une série, tout un monde comme ça, extrêmement précisément défini, avec une rigueur philologique et archéologique extrême chez Lovecraft. Et au sein de cet ensemble, Cthulhu, quelle est sa fonction et quel est son rôle? Parce que là aussi, les rôles sont distribués et une hiérarchie existe.
Alors, c'est très curieux parce que lorsqu'on regarde bien la nouvelle, Cthulhu.
Alors, les nouvelles, parce que vous citez Cthulhu, 26 textes qui se déploient sur la chronologie lovecraftienne entre 1917 et 1936. Oui. 26 textes selon lesquels une sorte de canon cthulhien se définit et s'amplifie la figure de Cthulhu.
Il y a un panthéon, mais Cthulhu lui-même n'apparaît guère que dans l'appel de Cthulhu. On le cite ailleurs. Et dans l'appel de Cthulhu, on découvre qu'en fait, ce n'est qu'un grand prêtre. C'est quelqu'un, c'est presque le concierge de la nécropole des anciens. Mais en même temps, l'appel de Cthulhu est une nouvelle tellement frappante avec cette construction extraordinaire de révélation par niveau. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a frappé et qui a donné la vedette à Cthulhu. Mais en fait, quelque part, c'est une divinité très mineure dans le panthéon. Mmh. Les grandes divinités sont Nyarlathotep, Assos, Yoxosos et un quatrième qui m'échappe complètement, ce qui fait très sérieux. Non, je l'ai dit. Choub-Niggurath. Qui auront plus ou moins des caractères, des attributs divins. Choub-Niggurath, par exemple, c'est la fécondité. Azathoth, c'est l'univers lui-même qui est aveugle et idiot. On voit tout de suite l'orientation de la pensée lovecraftienne.
Alors, c'est un monde qui est basé sur le thème du retour. C'est-à-dire qu'il y a eu un passé... Plus que millénaire, durant lesquels toutes ces déités et leurs serviteurs ont régné sur Terre, elles en ont été bannies et elles attendent leur retour, détenues en espèce de geôle énorme aux confins du monde. Et c'est un peu la thématique générale, c'est celle, j'allais dire, du réveil et du retour. Ce qui est très protestant d'une certaine façon.
Je pense en fait que la thématique, c'est toujours la fugacité de l'existence humaine. C'est-à-dire que nous ne sommes qu'un incident. Il y a eu avant nous les grands anciens. Pour l'instant, ils sont morts, mais apparemment, ça n'est pas fatal. Un jour, ils vont revenir. Et nous n'aurons été qu'un incident médiocre, sans doute même pas digne d'être revenu.
Il y a un anti-humanisme radical chez Lovecraft. Et on pourrait dire que chez lui, il y a une dimension pascalienne. Parce que quand il y a l'horreur de ces espaces infinis m'effraie. Ouais.
C'est pas des espaces infinis. Voilà. C'est le fait qu'il y ait des espaces infinis.
Voilà,
en plus, ils sont peuplés par des voisins qui sont pas forcément bénéfiques. C'est-à-dire nocifs. Ils sont nocifs. Ils sont pas activement malveillants. certains peut-être, mais ils sont surtout nocifs. Ils sont pas comme nous et ils sont dangereux.
Alors, Jean-Luc Rivera, c'est ça qui est une des caractéristiques de Lovecraft. Il est athée. C'est un homme qui est tourné vers, je dirais, la démarche scientifique, une réflexion qui n'est pas du tout mystique, incantatoire et religieuse. Et c'est avec ce, je dirais, cette structure mentale, ce bagage, qu'il interroge des mondes qui, eux, appartiennent, par contre, totalement à l'indicible et à l'innommable.
Oui, Lovecraft considère que l'homme n'est qu'un accident. D'ailleurs, dans une des nouvelles, il est même clairement dit que l'homme a été créé comme nourriture et comme jouet par une race très ancienne. Et ce sur quoi il insiste toujours en tant que rationaliste et en même temps passionné par les sciences, c'est qu'en fait, la connaissance est dangereuse quelque part, puisqu'on voit toujours les catastrophes se passent, c'est parce que ce qui a été oublié, des savants, des archéologues, etc., veulent redécouvrir ces savoirs cachés, enfouis dans des grimoires interdits qu'on ne doit pas déchiffrer. Et c'est quand ils réussissent à accéder à un fragment de cette connaissance qu'ils sont confrontés à l'indicible, à l'inaccessible. Et s'ils ont de la chance, ils se réfugient dans la folie. S'ils ont un peu moins de chance, ils subissent un sort encore plus épouvantable et pas forcément que la mort. Donc il y a toujours cet aspect chez lui que l'homme n'est rien face à l'immensité infinie et que nous ne sommes qu'un petit accident historique sur des millions d'années. Les autres, la grande race par exemple, elle était là avant, ça donne lieu d'ailleurs à des descriptions magnifiques. On rêve d'aller visiter la bibliothèque de la grande race et dans l'Antarctique. Et puis, eux, ils vont se réfugier après dans la race qui dominera la Terre, qui sera une race de coléoptères géants.
Alors, Patrick Marcel, effectivement, cette minuscule anecdote biologique qu'on appelle l'homme, quand elle accède à la contemplation effrayée de tout ce monde, c'est de manière accidentelle. C'est les explorateurs, les érudits, même les étudiants, quand ils entrevoient vaguement ce qu'il y a derrière l'apparence des choses, c'est de manière accidentelle, c'est presque sans l'avoir voulu.
C'est tout le but d'ailleurs de l'appel de Cthulhu, j'y reviens toujours parce que c'est vraiment la nouvelle clé, c'est plusieurs incidents qui étaient plus ou moins innocents, qui avaient une certaine atrocité chacun à leur niveau, mais il n'y avait pas de lien établi entre eux. Et c'est lorsque le narrateur établit le lien et met en parallèle toutes ces narrations, qui comprend tout le portrait, toute l'image, tout ce qui s'est passé véritablement, et il comprend à quel point l'humanité est passée, sans le savoir, très près de sa destruction. Et c'est l'horreur. Et c'est ce qu'il y a de fascinant aussi, c'est que, si on regarde bien, toutes ces histoires de cultes de Cthulhu, de cultes des grands anciens, etc., tout ça, ce sont, quelque part, des déformations religieuses dues à l'humanité. Il y a Nyarlathotep qui est un peu mêlé aux hommes, enfin qui est quelque chose d'un petit peu hybride, mais autrement, les autres dieux n'ont sans doute aucune connaissance propre de nous.
Lovecraft, donc, en vedette, grâce à plusieurs publications récentes, Cthulhu de Patrick Marcel aux éditions Les Moutons Électriques, le très beau collectif Lovecraft au cœur du cauchemar, toute une série d'études érudites chez ActuSF, La clé d'argent des contrées du rêve aux éditions Mnemos, et puis le retour donc du livre de Roland Wagner qu'il faut lire dans la collection Helios.
Et je voudrais ajouter qu'en ces temps d'élection présidentielle, il y a un programme qui s'intitule Votez Cthulhu, voilà, qui vient de sortir chez Marabout. Et ici, à Livre Paris, si Cthulhu est élu, nous aurons Abdul Al-Azred comme ministre de la Culture pour la prochaine inauguration.
Un très régal. Drôle.
And I can see out of my cab, and she's still doing that.
Okay, we'll call it an individual causing a disturbance in your train. 5 approaching for 1.
10-4, thank you.
Boop, 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 boop.
cette thématique de la Lovecraftienne avec donc des sorties récentes Blu-ray et DVD. Philippe Rouillet. Bonjour. Philippe
bonjour, bonjour à tous. Alors on est avec les Blu-ray de chez et DVD de chez ESC Éditions. Et moi, je vous recommande tout particulièrement un film de 1980 qui s'appelle Nuit de cauchemar, qui est une sorte de fantasme délirant chez les rednecks. Alors, on pourrait croire que c'est une sorte de version de Massacre à tronçonneuse. C'est un hôtelier qui fait de la viande fumée et sa viande de porc est particulièrement savoureuse parce qu'en fait, on va le découvrir très vite parce qu'il l'assaisonne avec de la viande humaine. Alors, il tend des pièges autour de son hôtel et il capture les automobilistes imprudents. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il les cultive comme des animaux, c'est-à-dire qu'il les enterre, il les fait pousser comme des poireaux, et avec sa sœur, qui est assez immonde aussi, il les gave, il leur a coupé les cordes vocales, et puis quand ils sont bons, il les assaisonne. Alors, dit comme ça, c'est abominable, mais en fait, c'est une farce de Grand Guignol.
Et
ce qui est très drôle, c'est qu'à l'origine, c'est Toby Hooper donc, qui devait le réaliser juste après Massacre à tronçonneuse, et les producteurs se sont dit, mais si c'est Toby Hooper qui réalise, ça va être abominable, personne ne pourra regarder ce film. Et finalement, on a été chercher Kevin Connor, qui est un réalisateur anglais, qui avait Frisson d'outre-tombe, un film à sketch pour l'Amicus, et aussi Les Sixièmes Continents, les films de dinosaures et tout ça. Et lui, il a ce regard anglais sur ce monde des rednecks. Et il amène un regard humoristique incroyable. Il imagine que ses hôteliers sont aussi échangistes. Alors, des types arrivent en disant, ils espèrent faire des galipettes. Et les autres disent, attends, on va faire du bondage. Et voilà. Et il y a comme ça un nombre d'histoires délirantes. Il a fait aussi intervenir Jacques, qui est en fait un DJ à qui donne le rôle d'un télévangéliste, parce qu'il y a aussi
légende de la radio américaine.
Et voilà, il y a toute cette histoire qui est un peu en arrière-plan et qui marine et qui est absolument extraordinaire. Et l'image du film, même si vous n'avez pas vu le film, vous la connaissez, c'est un type en salopette de redneck avec une tête de cochon. Voilà, et c'est fascinant, cette tête de cochon sur pattes avec une tronçonneuse, c'est un peu le symbole du film, c'est un peu cette distanciation, ce Grand Guignol, et en même temps ça annonce tout un pan du cinéma avec par exemple un duel de tronçonneuses, un duel fratricide parce que le frère de l'hôtelier est le flic du coin, et ça se termine dans un duel de tronçonneuses que Toby Hooper reprendra dans Massacre à tronçonneuse 2.
Merci Philippe Rouillet. Faites sobre alors à ce moment-là, Fausto Fasulo.
Face à Philippe, je pense qu'on peut être sobre en fait. Bah, je vais vous parler des deux sorties restantes. Alors, le fil rouge un peu de ces deux.
On rappelle le label qui est dit de ces merveilles.
Alors, le label, c'est ESC, c'est Move Inside.
Alors, fait. ESC, moi j'en souviens du bien, le tout petit matin, voilà. 11 et moi à France Culture, c'est une très bonne maison. Il faut surveiller vraiment ce qu'ils font.
Exactement, le fil rouge en fait de ces trois films d'horreur, c'est vraiment la ruralité en fait, puisque les trois se passent effectivement dans le même cadre. Alors, en ce qui concerne les deux autres longs métrages proposé en Blu-ray chez ESC Move Inside, il y a Soudain les monstres, donc, de Bertie Gordon, qui est vaguement inspiré de H.G. Wells et qui ravira tous les amateurs de gigantisme. Mr. Big, c'était le surnom du réalisateur, donc Bertie Gordon, est spécialiste en fait de ce type de film-là. Donc là, c'est un régal. C'est très très drôle puisque vous allez assister à une invasion effectivement de poules géantes, de rats géants et de guêpes géantes. Donc c'est vraiment un spectacle tout à fait affriolant pour les fans de série B. Et puis il y a ce qui constitue aussi le gros morceau de cette salve, c'est La Nuit des Vers Géants de Jeff Lieberman. J'en parlais au tout début de l'émission. C'est vrai que quand il a commencé à écrire le scénario, il avait Lovecraft en tête. Il y a une chose que je veux absolument évacuer, c'est qu'en dépit du titre La Nuit des Vers Géants, le film est totalement diurne et il n'y a absolument aucun ver géant dedans.
Voilà. Rien à voir avec Régal d'Astico, très bon film.
Exactement.
Que je recommande, paru chez Back Film.
Voilà, un film beaucoup plus gonzo. En tout cas, Soudain les monstres et La Nuit des Vers Géants ont tous les deux été réalisés en 1976. Ce sont de purs produits dérivatifs du succès des Dents de la Mer, donc ce sont des films d'attaque animale. Et ce qu'on peut dire en tout cas concernant La Nuit des Vers Géants, c'est que c'est un film, et à mon avis c'est un record dans l'histoire du cinéma, qui a utilisé 250 000 véritables asticots.
Ah, des animaux, l'animal lui-même.
L'animal lui-même, oui.
J'avais vu une tempête chez Lucio Fulci, une tempête d'asticots également, je crois.
Il y a toute une thématique autour des vers chez Lucio Fulci qui serait absolument intéressante à traiter.
Ouais. Ben, un jour, on offre une émission spéciale, Fausto, sur la thématique du vers chez Lucio Fulci. Il le mérite. On dit encore quelques mots de Thomas Millian, quand même, Philippe Rouillet.
Oui, parce que Thomas Millian, mais il n'était pas là quand vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais alors, c'est vrai qu'il y a cet aller-retour entre le cinéma d'auteur et le cinéma de genre, mais ce que je trouve très intéressant, c'est son art d'acteur. C'est-à-dire que c'est un acteur très exubérant, mais en même temps, son exubérance suggère une vie intérieure très forte. Ce qui fait que ça l'a amené à jouer beaucoup de rôles de psychopathe et qu'il a illuminé comme ça tout, tout un pan du cinéma de genre, à la fois les westerns chez Solima et Corbucci, mais aussi les films policiers chez Lenzi, et que du coup il peut aussi être dans la veine parodique, c'est-à-dire que le type est en fait quelqu'un qui va suivre le cinéma italien et qu'il se met toujours là où il est à la mode pour avoir du boulot.
Voilà, c'était notre hommage à Thomas Millian, des icônes du mauvais genre qu'on peut retrouver dans nombre de films qui sont sortis récemment en DVD, notamment tout ce qui est western et puis films d'action. On termine cette émission de Mauvais genre au Salon du Livre 2017, bien évidemment par le maître Beer.
En 1946, dans la pension victorienne exiguë de sa mère, un jeune garçon de 24 ans photographie le corps musclé d'un gymnaste. Celui-ci est le premier des 15 000 modèles immortalisés par Bob Mizer pour Physique Pictoriale, lancé en 1951 et considéré comme le magazine américain fondateur destiné au public homosexuel. Thousand Model Directory, deux beaux volumes publiés par Taschen, offre un écrin chaleureux à un millier d'éphèbes des 20 premières années chastes de l'artiste. Car jusqu'au décès de Delia en 1964, mère compréhensive qui l'autorise à transformer son salon en studio, le cache-sexe est l'indispensable accessoire vestimentaire des modèles masculins qui défilent devant Mizer. Contre des tirages gratuits, il sait amadouer les culturistes hétéros de la jetée de Santa Monica en mal de publicité. Sa renommée est immédiate. Bientôt, les candidats au string affluent dans son studio, l'Athletic Model Guild. S'éloignant des poses académiques des beaux-arts, le photographe gay invente un univers ultra kitsch et viril dans des décors de rochers en papier mâché figurant le Far West, derrière des photos projetées, des toiles peintes ou des motifs floraux en ombre chinoise. En extérieur, il choisit des plages désertes ou le bord de sa piscine. Des jeunes gladiateurs et des bikers sans perfecto s'étreignent dans des corps à corps frémissants. Les cow-boys dégainent leur colt. Les vaincus sont attachés en martyrs à des piliers en stuc ou des troncs d'arbres. Des matelots souriants, ne portant que leur calot ou torse nu bien serré dans un jean, tendent de noueuses cordes d'amarrage. À partir de 1957, la cabine de douche devient un passage obligé. Jaillissement de l'eau sur les trapèzes, à deux, trois ou plus, dans une mâle et joyeuse promiscuité. Des contre-plongées fétichisent les fessiers rebondis, le galbe des cuisses bronzées, les torses bombés dans un noir et blanc léché. Les muscles lubrifiés miroitant, les corps invitent à l'émoi. Contrairement aux autres photographes de culturisme, Bob Mizer rend les regards et les attitudes plus accueillantes, libérant avec candeur l'imaginaire homo-érotique de ses lecteurs. Un DVD en bonus laisse soupçonner l'immense filmographie du photographe, constituée de courts films en 8 et 16 mm comme Gladiators and the Slaves et Dr. Bigelow's Monster, parodie potache se clôturant en inévitable pugilat.
Merci Christophe Beer pour cette chronique sur Bob Mizer. Alors pour lire Lovecraft, trois tomes dans de tradition traditionnelle, on peut le lire chez Bouquin à la Fond, également à lire en point seuil, également chez Mnemos et chez Brazlon. Et les ouvrages dont nous avons parlé ce soir, Cthulhu, point d'exclamation, de Patrick Marcel, au mouton électrique, Lovecraft au cœur du cauchemar chez ActuSF, La clé d'argent des contrées du rêve, un recueil de nouvelles aux éditions Mnemos, Roland Wagner, HPL, donc dans la collection Helios, et puis les trois DVD, La nuit des vers géants, Nuit de cauchemar, et soudain les monstres, label ESC, toute l'équipe de Mauvais genre, Laurent Polleret, Élise Le, Gilles Manet, David Anéas, Claire Martin Dugard, Chloé Leblon, Céline Duchesnet, Philippe Rouillet, Jean-Luc Rivera, Fausto Fasilo, Christophe Bir et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Mauvais genre. J'y recevrai Caroline de Mulder pour son roman Calcaire, paru chez Actes Sud dans la collection Actes Noirs. Et maintenant, France Culture, on ne reste à l'entrée de la chaîne pour écouter Amaury Chardot dans Métronomique.
Do you want such a joke? You are a joker. You don't need a girlfriend. You need a social worker. She's waiting at the You're in your hotel. everybody always knew. The game that you were playing, you were fooling no one. So we're glad that you are paying, but still she's gonna cry. Yeah, still it's gonna hurt that you are a tearjerker. You're such a jerk, yeah. A tearjerker. You're such a jerk, yeah. These surfaces are shiny. Anything wipes off them. These surfaces are hard. Nothing seems to mark them. Breakfast ends at 10 a.m. Do you think we could be through by then? Cause breakfast is inclusive. Do you think I'm stupid? I'm stupid. I'm stupid. You are such a jerk. You are a tearjerker.